Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Merci Seigneur pour nos familles, pour nos activités de toutes sortes et pour notre destinée que tu as écrit et dont tu restes le seul maître. Merci Seigneur parce que si tu ne nous avais pas donné un minimum de paix, nous ne pourrions pas être ici. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait d'extraordinaire dans notre vie, de visible ou d'invisible. Merci Seigneur pour les plus grandes choses encore que tu t'apprêtes à faire dans nos vies. Qu'il te plaise Saint-Esprit de Dieu d'être ici l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. D'inspirer tout ce qui va se faire ici, de terminer, de bénir, de faire porter des fruits à tout ce qui va se faire ici ce soir. Qu'il te plaise de restaurer les couples, les personnes qui ont besoin ici d'être restaurées. Qu'il te plaise d'édifier, de fortifier, d'encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés, Seigneur. Tu as dit que si l'un d'entre nous te demande de la sagesse, tu lui donneras sans discuter. Qu'il te plaise maintenant au nom de Christ Jésus donner à tous qui sont ici ta sagesse en abondance. Merci Seigneur de nous donner aussi ton discernement, de nous donner ton intelligence, de nous donner ta force, ton courage pour traverser les épreuves, car il y en aura toujours. Mais tu as dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Merci Seigneur parce que tu inspires ta servante Hermione que tu utilises ce soir. Donne-lui, toi qui connais les besoins des uns des autres, toi qui connais les attentes des uns des autres, d'enseigner non pas ce qu'elle veut, mais ce que tu lui ordonnes d'enseigner. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle et que cette soirée est un moment de bénédiction pour chacun de nous. Sois loué, magnifié Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.
On va commencer par les questions. Parce que hier, là, on a fini tardivement. Je sais qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions hier, mais parce que l'heure était avancée, là, personne ne voulait poser des questions. On va y aller. Il y a des questions? Oui.
Merci. Bon, moi j'ai une préoccupation. Surtout l'enseignement, vous avez beaucoup insisté sur la sincérité, c'est-à-dire s'ouvrir à son partenaire sans réserve. Ça m'amène à poser une question. Est-ce que c'est s'ouvrir, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, c'est-à-dire par rapport au caractère du partenaire, ou c'est carrément s'ouvrir d'office, quel que soit le caractère du partenaire, parce que la personne qui est en face de soi n'a pas la même perception que vous, par exemple. Je ne sais pas si ma question
oui,
est claire.
Oui, je vois.
Voilà. Donc, la question se résume à ça. S'ouvrir, quel que soit le caractère du partenaire, ou voir le caractère du partenaire pour savoir quoi dire quand et de manière progressive.
Il y a une autre question? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autre question. Quand je disais hier de s'ouvrir à son conjoint, à son partenaire, ça sous-entend que votre relation, tout au début, est basée sur la crainte de l'Éternel. Comme je l'ai dit, si vous êtes un chrétien et que vous avez un chrétien en face de vous, et que déjà, au berceau de votre relation, vous êtes entendu pour marcher, pour entamer une relation dans l'honnêteté, il y a le minimum qu'on puisse dire. Le minimum qu'on puisse dire. Maintenant, si l'autre n'a pas la crainte de Dieu, l'autre n'a pas la même vision que vous, n'a pas la même perception des choses que vous, là, ça devient difficile. Et c'est pour cela que hier, je disais, mais il y a des hommes que je vois souvent au séminaire, aux formations, mais qui ne viennent jamais avec leurs fiancés, jamais avec leurs amis, jamais avec leurs femmes. Et vice-versa, jamais avec leur mari, jamais avec leur partenaire avec qui ils sont fiancés, jamais avec leur petite amie. C'est-à-dire l'autre personne avec qui ils veulent entamer une relation sérieuse qui t'a entré dans le mariage. Dans ce cas, c'est difficile. C'est difficile, la pratique devient vraiment difficile. Ça devient difficile dans le sens où l'autre vous prend comme quelqu'un qui est tombé des nues, qui amène juste des principes qui sortent de nulle part. Ce serait difficile. Vous ne pouvez pas regarder dans la même direction. Mais déjà, si vous écoutez déjà ce genre d'enseignement, c'est bon de les amener. Maintenant, si vous n'êtes pas encore dans une relation, vous écoutez pour vous. Et lorsque vous allez entrer dans une relation, vous posez de bonnes bases. On part sur de la sincérité. On part sur l'honnêteté. On doit s'ouvrir l'un à l'autre. Ça doit être le premier principe de votre relation. Et c'est là où je disais hier, quelqu'un voulait aller au mariage avec une femme. Et bon, la femme a demandé, raconte-moi un peu ta vie. Lui, il a raconté toute sa vie. Mais quant à lui, maintenant, de demander à la femme quel était son passé, la femme dit, ne me demande pas, je n'ai rien à te dire. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Déjà, l'homme devait comprendre que c'est là, attention. Et j'ai dit que c'est ce qui est mauvais que l'on cache. C'est ce qui est mauvais que l'on ne dit pas. Ce qui est pourri, ce qui, en temps normal, sortait, n'a pas du tout de valeur. C'est ça que l'on cache. Mais si vous êtes honnête, vous n'avez rien à cacher dans votre vie, dans votre passé, dans votre relation. Et à la limite, personne n'est parfait. Mais si vous êtes honnête envers vous-même et que vous le dites à votre partenaire, cette honnêteté peut être contagieuse. Cette honnêteté peut être contagieuse. Parce que déjà, ce que vous dites, ça vient du fond de votre cœur. C'est la vérité. C'est sincère. Vous n'avez rien à vous reprocher que l'autre vous comprenne ou pas, mais vous avez déjà dit. Et quelle que soit la situation qui va arriver, l'autre va comprendre que cette personne, ou quand il va découvrir certaines choses, il se dira déjà, je l'ai déjà entendu de la bouche de mon partenaire ou mon épouse. Donc, il n'y a pas de barrière. C'est vrai qu'on ne va pas s'ouvrir pour s'ouvrir à son partenaire n'importe comment, mais tout est question de départ, de vision, de marche dans une direction. Et c'est pourquoi je dis le mariage, c'est pas seulement nous allons nous marier juste un jour, porter la robe blanche, entrer dans le ménage, on a affaire au cesse, et puis lorsqu'on finit le cesse, on a des enfants, et puis c'est terminé. Le mariage est beaucoup plus que ça. Le mariage ne se résume pas seulement à la vie à deux. Non, c'est beaucoup plus de choses. Et c'est là où je disais hier que la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Si vous êtes un dont Dieu parle en pensée, en parole, en action, si vous vivez avec quelqu'un, même en esprit, par l'acte sexuel. Donc, vous ne pouvez même plus lui cacher quoi que ce soit. Il doit plus avoir même de cuisine interne dans vos pensées, dans votre cœur. Vous devez vous ouvrir. Et c'est là où je disais hier, s'ouvrir à son partenaire, ça peut lui sauver la vie. Ça peut lui éviter certaines erreurs. Admettons un seul instant que vous connaissez quelque chose de quelqu'un ou que vous avez peut-être grandi avec quelqu'un qui n'est pas très honnête. Bon, ou encore la limite, prenons le cas de la jeunesse aujourd'hui, que peut-être avant vous êtes sorti avec quelqu'un et que vous connaissez déjà cette personne. Et parce que déjà tombé dans le péché, vous n'êtes plus allé dans les lieux du mariage et vous êtes séparés. Mais le mari que vous avez trouvé après, qui peut-être voudrait faire des affaires avec ce dernier, c'est à vous de lui dire attention, parce que vous lui avez déjà dit qui cette personne est. La relation que vous avez eue avec cette personne va plutôt l'éveiller pour ne plus entamer quoi que ce soit avec cette personne. Mais si vous ne dites rien et que votre S devient le partenaire de votre mari, à la limite, il ne le respectera jamais. À la limite, il va chercher à lui nuire jusque pour reprendre sa place. Et l'ego des hommes, quand vous sortez avec quelqu'un et vous entrez dans une autre relation avec un autre homme, les hommes sont beaucoup plus jaloux que les femmes. Les hommes ne supportent pas du tout le fait de voir l'ex-amant de leur femme. Oui, et c'est vice-versa. L'ex va toujours vouloir prendre sa place parce que de loin maintenant, il voit ce qu'il a perdu. De loin, il voit maintenant quelles étaient ses erreurs. Il pouvait améliorer pour revenir à la place de cette dernière. Donc ça peut créer beaucoup de problèmes si l'on ne souffre pas. Si l'on ne souffre pas. Donc, moi, je dis, si ce que vous voulez dire, vous êtes réellement honnête avec vous et vous ne cherchez rien à cacher, et vous ne cherchez rien à cacher, normalement, vous devez dire ce que vous ressentez. Et maintenant, l'autre partenaire doit l'intégrer. C'est ce que je disais hier. L'autre partenaire doit accepter, homme comme femme, doit accepter que l'autre, franchement, dise ce qu'il ressent, ses craintes, ses peurs, ses pensées, ses envies, ses désirs, sans pour autant déclarer la guerre, sans pour autant que ce ne soit un sujet de malentendu chaque fois. Donc la communication, oui.
Voilà. Bon, en fait, je suis bien d'accord pour la sincérité et la franchise. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand vous entrez tout au début dans une relation, bon, vraiment au début, c'est pas toujours évident de savoir si c'est vraiment du consistant, du concret. Est-ce que tout au début de la relation, vous devez vous mettre à tout déballer parce qu'on sait tous que plus vous vous ouvrez, plus vous êtes vulnérable. Est-ce que c'est au début de la relation qu'il faut se mettre à tout déballer? Est-ce qu'il faut tout déballer au début pour faire preuve de bonne foi, de sincérité dans le début d'une relation? Parce qu'on sait que plus vous vous ouvrez, plus vous êtes vulnérable.
Bon. Moi, je dis, quelque part aussi, c'est une question sociale. C'est une question d'éducation. C'est une question de personnalité. Moi, je dis, si je veux entrer dans une relation avec quelqu'un, d'abord, il y a quelque chose qui m'attire. Et on ne va pas dans une relation déjà juste pour essayer. Et c'est pourquoi Dieu doit être l'alpha et l'oméga de toutes choses. Seigneur, si c'est une femme, si c'est un homme, bon, cette personne correspond à l'épouse de demain que je veux avoir. Elle m'attire, je veux aller vers. Cet esprit guide-moi. Est-ce que c'est la bonne personne? Nous devons normalement lui poser la question d'abord, avant de s'y mettre. Ce n'est pas que nous devons le laisser d'abord y entrer et venir lui dire maintenant, viens voir ce que j'ai fait. Non, il doit être l'alpha et l'oméga. Puis-je aller? Oui. Puis-je aller? Non. Quelle que soit la douleur, quel que soit ce que vous ressentez, quand il dit non, c'est non. Quand vous n'êtes pas convaincu, c'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites sans conviction n'est que péché. Maintenant, si vous y allez et vous rencontrez quelqu'un pour une première fois, je pense que c'est la norme, hein, je ne sais pas si c'est comme ça chez moi, mais le minimum, je suis telle personne, les gens ont souvent l'habitude de dire ça, de telle famille, de tel nombre de familles, j'aime ci, j'aime ça. À la limite, il y a d'autres qui disent, parle-moi de toi. Le parle-moi de toi dépend d'abord de l'autre, à quel point cette personne, même personnellement envers elle, n'a rien à cacher, n'a rien à protéger, elle dit. Et c'est pourquoi moi je disais, dans une relation, je vais peut-être donner un exemple réel. Le jour où j'ai rencontré mon époux et nous étions en train de parler, je pense que je lui ai dit, je suis telle, j'aime telle, mon passé c'est tel. Le premier jour on s'était vu. Parce que pour moi, je n'ai rien à cacher. C'est ce que je suis, c'est qui je suis. Et, comment je dis, il faut d'abord être franc avec soi-même, ouvert, sincère avec soi-même. Personne n'est parfait pour se dire que, bon, maintenant, si vous avez des choses qui peut-être vous trouvez dans le passé, vous êtes repenti, mais vous vous dites, est-ce que je peux déjà rendre tout cela dès le début? Et si demain, qu'est-ce que telle personne va penser de moi? Mais c'est progressif, il y a des choses minimum que vous pouvez livrer. Et en évoluant, vous vous ouvrez encore davantage parce qu'on ne finit jamais de se connaître. On se découvre toujours. Et quand vous entrez dans la relation, vous allez voir que plus c'est la personne, c'est l'être aimé, c'est celui avec qui, l'être avec qui on s'entend bien, la compatibilité y est, on se met à parler, à à tout dire sur soi-même sans même se rendre compte. Et on a même du plaisir à s'ouvrir à l'autre. On se sent plus en sécurité, plus en confiance parce que la communication entre vous est déjà sincère. Dès le début, parce que vous avez déjà eu à dire le minimum. Mais par exemple, quelqu'un ne peut pas entrer dans une relation, par exemple, le premier jour, et dire, ben écoute, tu sais, bon, j'avais avorté avant, bon, tu sais, j'avais 10 copains, hein, bon, c'est toi le premier. C'est pas non plus se moquer de l'autre par son passé que l'on ne trouve même pas mauvais. On va le dire, mais il faut que la relation atteigne un certain niveau. Mais déjà, ce qu'on peut dire, vous pouvez déjà le dire au début de cette relation. Encore que si cette chose n'a rien à voir. Parce que je dis, quel que soit ce que vous faites et que vous cachez, si c'est vous seul qui avez fait, encore que là, ça finit toujours par se savoir. Mais le temps n'est pas la même chose que ce que vous faites avec une autre personne. Même si vous ne le dites pas, l'autre va dire. Vous allez voir, c'est le cas de certains hommes qui disent, oh celle-là, oh jamais, oh moi je suis déjà passé par là, oh je connais un ami. C'est vite fait. Donc, même si vous gardez ça comme votre cuisine interne, un jour ça va se savoir. Et quand ça va se savoir parce que votre partenaire, vous ne lui avez pas honnêtement dit, c'est-à-dire livré votre cœur, ça lui fera mal. Et c'est un peu comme si cette relation que vous avez eu à abandonner, ou cette vie que vous avez eu à mener, vous êtes prête encore à recommencer si vous trouvez encore le chemin, bien qu'étant avec cette personne. Et c'est vrai, il y a des hommes et des femmes à qui on ne fait pas d'aveux. Le jour où tu leur fais des aveux, ah, c'est leur témoin. Il a couché avec. Il a fait. Il n'est pas bon. Elle, là, elle n'est pas sérieuse. C'est elle-même qui a dit, hein, avec sa bouche, ah non, 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 c'est elle, c'est elle. Ils prennent ça comme un témoin. C'est vrai qu'il y a de ces genres de personnes. Donc, c'est à vous aussi de voir votre relation, la maturité de votre partenaire. Est-ce que vous pouvez déjà, c'est-à-dire, il n'y a pas de choses à cacher, mais par où commencer, comment le préparer, comment entrer dans cette relation de confiance, d'intimité, d'honnêteté, et vous préparer le terrain comme quelqu'un qui va dans un champ, il fait d'abord les sillons avant de mettre la graine sur terre. C'est bon? Une autre question? Il n'y a plus d'autres questions. Donc, depuis hier, on est en train de parler de la communication interne et externe à l'usage du couple. Et pour faire un peu le résumé, hier je disais que la communication interne au sein du couple est comme le sang. Le rôle que le sang joue dans le corps humain, c'est ce rôle que la communication joue dans le couple. Le jour où la communication s'arrête, on peut dire aussi dialogue, tout, s'arrête, c'est que le couple meurt. Ça c'est clair. Et j'ai dit aussi que les petits problèmes, des malentendus, des querelles qui durent toute une journée sans solution, c'est des murs que vous êtes en train d'ériger dans votre foyer, dans votre relation, que vous ne pourrez plus briser plus tard. Parce que c'est comme si vous êtes en train d'arroser la graine de problèmes que vous avez mis sous terre, vous l'arrosez. Donc, ce n'est pas bon d'avoir des querelles, des non-dits, des disputes au sein du foyer, d'une relation, sans percer l'abcès. Il faut toujours percer l'abcès. Et on a parlé aussi de la communication, le fait que la communication n'est pas l'acte de dominer quelqu'un. Ça, c'est les hommes, ça. C'est pas dominer, ça passe ou ça casse. La communication au sein d'un foyer n'est pas un ring ni un champ de bataille. Et si nous ne sommes pas du même avis, ce n'est pas que la guerre, c'est pas qu'on s'annonce la guerre. On peut ne pas être du même avis, mais juste sur ce problème, sur ce point sur lequel nous ne partageons pas les mêmes avis, on laisse ça de côté et on continue notre communication, quitte à ce que le Saint-Esprit nous départage, que l'autre trouve une référence biblique, quelque chose d'autre pour apporter, pour que l'autre puisse comprendre que c'est vrai, je n'ai pas raison. Et ce n'est pas une affaire non plus d'avoir forcément raison, de chercher forcément à avoir coûte que raison. Non. Si vous êtes en train de communiquer sur un sujet et que l'autre peut-être ne partage pas le même avis que vous et que la Bible dit autre chose et que votre connaissance de ce que la Bible dit par rapport au sujet est au-dessus de l'autre, c'est à vous de prendre votre Bible et vous lisez, ça vous départage. Et j'ai donné l'exemple hier par rapport à moi-même, où il y a eu des... On ne partageait pas divergence d'avis par rapport au combat spirituel. Mais à un moment donné, j'ai commencé par prier, j'ai dit, Saint-Esprit, révèle-nous. Mais où est la vérité? Parce qu'après tout, c'est sur la parole de Dieu que nous ne sommes pas d'accord. Et c'est là, j'ai vu, on a parlé, Luc a parlé, Jésus a parlé dans le livre de l'évangile de Luc, qu'il faudrait qu'on vende tous nos habits pour s'acheter une épée. L'épée, ce n'est pas pour manger. L'épée, ce n'est pas pour mettre la tête dessus non plus. Et l'épée, ce n'est pas pour porter tout simplement, mais c'est pour faire la guerre. Et Éphésiens nous a dit, lorsqu'il nous présentait les armements spirituels, à parler de l'épée à double tranchant. Et que quelque part encore dans la Bible, Dieu nous a dit que notre combat n'est pas charnel, mais contre les esprits impurs. Et on a fini par se comprendre effectivement que c'est ça. Et encore un jour, on était allé quelque part, j'ai trouvé l'employé de quelqu'un vraiment bien. Dans un restaurant, l'employé était vraiment bien, accueillant, sérieux et tout. J'ai dit, tiens, ça c'est un bon gars. Est-ce qu'on ne va pas prendre? Et on avait même dit, oui, on va prendre son téléphone, on va l'appeler. Quand rapidement, il me dit, ah non, la Bible dit que tu ne dois pas convoiter le bien de quelqu'un d'autre. Donc là, tu es en train de convoiter l'employé du patron. Et c'est tellement clair. Et j'ai dit, ah oui, mais c'est vrai. Tu as raison en plus. Pam, il n'a qu'à rester là où il est. Pour moi, Dieu va me donner. Parce que, on dit, ce que tu fais à autrui, on te le fera. C'est clair. La mesure que tu as utilisée pour donner à l'autre, on te le rendra avec la même mesure. Donc, si moi je convoite l'employé de l'autre, c'est comme ça que quelqu'un va venir employer, va venir convoiter mes employés. On va dire, bon, tu gagnes combien là-bas? Bon, quelqu'un va dire 50 000, bon, je te donne 60 000. Il va courir pour partir. Donc, on peut ne pas partager les mêmes avis, mais en tant que chrétien, la Bible doit être notre manuel de base, là où on se réfère. Et ce n'est pas pour rien que, lors des mariages, si vous regardez bien dans les églises évangéliques, on achète toujours une Bible aux mariés, comme cadeau de l'église. Je ne sais pas si on fait ça chez dans vos églises. On achète toujours une Bible qu'on remet aux conjoints. Et on leur dit, vous devez vous inspirer de la Bible. Ce qu'il n'y a pas dans la Bible, vous ne devez pas le faire. Ce qu'il y a dedans, c'est ça que vous devez faire. La Bible est votre guide. Donc, on peut ne pas partager les mêmes avis, mais on finit par comprendre que la parole dit telle chose, et puis c'est fini. Tout est bon. Non, c'est là où je disais aussi hier que les sources éventuelles des problèmes de communication... C'est souvent lié aux divergences d'éducation, de culture, de religion et beaucoup d'autres choses. Religion, parce que si vous n'êtes pas dans la même... vous ne regardez pas dans la même direction, vous n'avez pas les mêmes visions, vous ne pouvez pas vous entendre. C'est le chrétien qui va trouver que le musulman n'a pas le droit de venir prier dans son sanctuaire, là où lui prie. Et il n'a pas besoin de faire 5 prières. Et là, vous ne pouvez jamais vous entendre. Jamais. Parce que l'autre va vous dire, ah non, attention, telle sourate dit-elle. L'autre va dire, ah non, c'est pas affaire de sourate, c'est ma Bible qui a dit si. Vous ne pouvez jamais vous comprendre. Donc c'est pour cela que Abraham a fait jurer son serviteur de n'aller chercher que pour femme à Isaac son fils, une fille de la maison de Lévi. Et Dieu lui-même a déjà dit au peuple d'Israël de ne pas épouser des femmes étrangères. Et c'est ça qui a créé la chute de Salomon, le roi Salomon. C'est par une femme que Salomon a été chuté. Il a chuté. C'est par une femme. Quand il a pris une femme égyptienne, à un moment donné, il croyait qu'il était plus malin. Il dit, bon, si je vais juste accepter cet Dieu pour ne pas payer l'impôt en Égypte ou en je ne sais où. À Rome, tout ça. Mais il a fini par chuter. Samson, qu'est-ce qui a fait chuter Samson? Une femme. Mais une femme étrangère. Comme l'erreur que Salomon a commis. Donc, c'est une femme étrangère. Et quand il a fini par livrer son secret à une femme étrangère, oui, c'est ça. On ne peut pas se livrer à quelqu'un qui est étranger à soi. Et bien, on ne peut pas se livrer à quelqu'un qui est étranger à soi.
c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous décidez de partager une vie. Vous décidez de partager beaucoup de choses. Ensemble, on se livre à cette personne. Parce que Samson s'est livré, on lui a coupé, les Philistins lui ont coupé les cheveux et il a perdu son pouvoir. Et il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'ont pas écouté la parole de Dieu, qui n'ont pas voulu obéir à la parole de Dieu et sont allés chercher des femmes étrangères et sont tombés dans l'erreur. Donc, si nous sommes chrétiens, quand je dis chrétien, ce n'est pas religion forcément. Ce n'est pas, faut pas aller prendre une femme catholique. Le jour où Christ reviendra sur la nuée, c'est sûr, il y aura des catholiques, des gens qui sont catholiques, qui iront au ciel. On a déjà dépassé ce niveau de religion, c'est ma religion, c'est les évangéliques, c'est les ci, c'est les ça. C'est sûr, Dieu lui regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Être chrétien, ce n'est pas être catholique. Être chrétien, ce n'est pas être protestant. Être chrétien, ce n'est pas être évangélique. Être chrétien, c'est pas. C'est être chrétien, obéir à la parole de Dieu. Connaître ce que Dieu dit pour obéir à cela, que cela vous plaise ou non. C'est ça être chrétien. Donc si vous n'êtes pas chrétien, si vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas faire long feu ensemble. On a parlé aussi des écarts de langage, c'est pour ramasser rapidement les écarts de langage dans le couple, des femmes qui ont un défaut d'éducation. Quand l'homme dit un là, elle a déjà dit mille. Ça crée des problèmes. Et des hommes aussi. Il y a des hommes qui ont des écarts de langage vis-à-vis de leurs femmes, qui ne les respectent pas du tout. Il faut commencer par éviter cela dans une relation pour que la relation puisse quand même aller de l'avant et que la communication puisse y être. On a parlé aussi des crises de colère. Les crises de colère, les hommes là, quand ils disent « Je suis le seul maître. Quand moi je parle, plus personne ne parle. » Et les papas deviennent des terroristes. Quand les enfants entendent le bruit du moteur de papa, tout le monde fuit. Hypocrisie. Ça développe l'hypocrisie chez les enfants. Ah, papa, jaï. Papa terroriste. Non. Quand 18h sonne, le cœur de la femme commence pas à battre. Et la maison devient un ring. Quand la femme parle, ils oublient que c'est une femme. En même temps, c'est un coup de poing. Elle tombe là-bas. Oui. Et il y a aussi des femmes, à cause de leur écart de langage, ce n'est pas normal, mais il y a des hommes qui sont un peu faibles, ils ne supportent pas moi. Et puis elle va à l'hôpital. Elle dit que toutes ces erreurs-là sont à éviter parce que devant les enfants, ça ne donne pas une bonne éducation à nos enfants. On a parlé de la gestion des finances au sein du couple, qui est à 80% source de problèmes. La gestion des finances dans le couple, à 80% source de problèmes. Vous avez des femmes qui sont partenaire de des collections Vlisco. Je ne dis pas de ne pas acheter Vlisco, hein. Mais il y a des femmes qui sont partenaires de ça, ces collections. Il faut tout, à tout prix avoir. Si ça sort, tu ne me donnes pas l'argent pour acheter, tu es un mauvais mari. Il y a des femmes à Pès. Vous savez ce que l'Ivoirien appelle comme ça, les pacpato là. Elles ne font rien dans le foyer. Le secret du foyer est toujours dehors. Et la Bible a déjà dit dans Proverbe 31, que c'est la femme vertueuse qui garde sa maison. Et c'est à travers le comportement de la femme vertueuse que l'on respecte son mari. Mais si toi-même, l'homme là n'est rien pour toi. Oh. Et puis toi-même déjà tu fais, quel respect l'on lui doit encore dehors? C'est fini. Tu as livré la marchandise, c'est terminé. On ne peut plus respecter cet homme. C'est des choses à laisser aussi. Et les endettements. Quand quelqu'un vient vendre, comment vous appelez ça? L'or jaune. On doit acheter AHO. Quand la vendeuse de poulet vient au bureau, ah, nous aussi on mange poulet, mais ça a ton ami. AHO. C'est toujours dans le même salaire. La vendeuse de chaussures passe. Ça c'est très joli. Deux. AHO. Toute sa vie est basée sur les têtes. Et quand elle se retrouve dans son foyer, elle ne paye pas, les gens vont venir. AHO, ton ami, ça a ton ami. Namaï. Et c'est pourquoi je dis que la gestion des finances est à 80% source de problèmes dans les foyers. Et il y a aussi des femmes pickpockets. Ah oui, quand ils laissent son pantalon, il n'a breakaway. Ça, c'est vite fait et bien fait. Oui, et on va te dire, oui, il n'a pas payé la popote. Et alors, moi j'ai pris. Je n'ai pas volé, j'ai pris. Et c'est pour toi. S'il n'a pas payé la popote, laisse-le. Le Seigneur le voit. Des femmes, oui. Des femmes pickpocket, kleptomanie. Et quand elle voit là, elle doit prendre. Il y a aussi des hommes pickpocket. Oui. qui volent leur femme, vous n'avez jamais vu? Ils sont encore plus dangereux. Quand la femme n'est pas là, je connais un couple un jour. Les deux sont des gangs, no play gangs. La femme fait à l'homme, l'homme fait à la femme. Et la belle-mère aussi fait à la femme. C'est une histoire vraie, je ne vais pas donner de nom. C'est une histoire vraie. Et le monsieur, il ne donne jamais la popote. Il est venu un jour avec, je ne sais pas combien on a dit, 20 000 francs dans sa poche. Et quand il est venu, il a enlevé le pantalon. La femme dit bon. Et Kakabo a dit, oh, c'est sûr, c'était les fidèles. Il est allé quelque part. Je vais voir. Elle met la main dans la poche. Elle trouve 20 000. Elle prend. Elle va cacher ça dans son sac. Le lendemain matin, elle est sortie de la maison très tôt le matin. Je suis allée acheter quelque chose, je ne sais quoi, au bord de la voie. L'homme a tout fait, il a pris le sac. Il a fouillé, il a trouvé 20 000. Pour lui, 20 000 plus 20 000, ça faisait 40 000. Alors que c'est 20 000 moins 20 000. Il a pris. Et quand il a pris, en voulant mettre ça dans la poche, c'est tombé. Les 20 000 sont tombés par terre. La belle-mère est là. Elle a cru que c'était l'argent de la belle-fille qu'elle condamnait déjà de dépensière et tout. Elle a ramassé l'argent. Arrivé troisième larron qui saisit Maître Alibori, la fontaine. Elle a pris. Et maintenant, l'homme a constaté. Et dit, maman, 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 telle. Et elle dit oui. Qui a pris les 20 000 francs qui étaient dans ma poche? Je dis, ah, c'est me where. Oui, babou. Il cherche, il ne trouve pas. Il crie, il passe partout. Il ne peut pas dire, j'ai déjà pris 20 000 aussi, c'est tombé. Donc pour lui, c'est 40 000 qui est perdu. Non, voilà. Il dit, qui a pris 40 000 francs dans ma poche? La femme dit, 40 000? Moi, je n'ai pas touché à ton pantalon. Mais attention, je vais chercher dans mon sac. Si jamais tu prends mes 20 000, tu auras des problèmes. Elle va chercher. C'est une histoire vraie, je vous dis. C'est une histoire vraie. Elle va chercher dans son sac. Elle ne retrouve plus les 20 000. Le voleur volé. Maintenant, les deux sont en cours. La belle-mère n'a rien dit. Elle a bouffé l'argent, rien ne s'est passé. C'est après que la belle-mère a reçu Christ. Un jour, elle est venue dire, ah, maman Fena. Quand je suis allée à l'église aujourd'hui, on m'a dit d'aller voir tout ce que j'ai offensé, de demander pardon. Un jour là, il semble que tu avais laissé tomber 20 000 là. Moi aussi j'avais 20 000. Donc j'ai cru que c'était pour moi qui était tombé, j'ai pris. Mais comme je suis allée à la maison, j'ai vu que j'ai retrouvé mes 20 000, je ne savais plus comment te ramener ça. Tout ça, ça fait partie de la communication. Honnêteté. Vous voulez envoyer des habits au presse, vous fouillez la poche de votre mari, vous trouvez l'argent dedans, vous sortez l'argent, vous déposez ça là. Vous lui dites, s'il est là, prends ton argent. Maintenant, si tu veux utiliser, tu peux prendre, utiliser, lui dire, j'ai trouvé tel montant dans ta poche, mais j'ai utilisé tel, il reste tel, c'est là. Ou bien j'en ai besoin, j'ai tout dépensé, mais quand même tu dis, là ce n'est plus un vol. Mais comment deux personnes seraient dans une chambre et on va commencer par chercher un voleur? Oui. Oui, est-ce que c'est bon?
De fouiller la poche de son mari.
Fouiller, non.
De mettre ma main dans la poche.
Mais on peut fouiller, non et oui. Non, pourquoi? Si vous voulez aller voir pour combien il a, pourquoi il a déposé le pantalon, il vient d'où, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas quelque chose, là, c'est mauvais. Et c'est la même chose que les portables. C'est mauvais. Si tu es honnête, tu me laisses ton portable, je prends. Et je fais ce pourquoi tu m'as dit. Mon Dieu est là, il te voit. Mais, si je prends par exemple mon cas, pour envoyer les habits au pressing, je ne peux pas prendre son habit comme ça, au dedans et puis envoyer. Et n'avait où dit, un jour, je vous ai raconté ça ici, on a trouvé, c'était 50 quelques ou 80 quelques mille dans la poche, bing. Et ça lui est arrivé encore il y a 3 jours. Et il porte un pantalon, il a oublié, mais là, il dit, ah, mais c'est bon d'avoir de l'argent encore dans sa poche, je dis, tu es riche. Oui. Et si c'était une pickpocket, rapidement, ça là, est parti. Il ne sait pas, mais Dieu sait. Donc, si c'est pour fouiller, pour envoyer par exemple des habits au pressing, avant de laver, là, vous êtes en train de prendre soin de lui et vous avez vu, vous prenez, vous lui remettez. Mais, si c'est pour aller voir, mais non plus, on ne doit pas cacher des choses. Moi, je peux être à la douche, mon portable sonne, je dis, mais chérie, décroche. Quelqu'un lui envoie un message ou bien quelque chose, il dit, ben lis, puisqu'on n'a rien à se cacher. Mais si c'est pour aller fouiller, pour chercher combien de préservatifs, avec combien de préservatifs il est parti, avec combien il a ramené, il va te dire, oh, je suis parti avec 3, et tu as vu que je suis revenu avec un seul. Ah, réjouis-toi au moins que tu n'auras pas le sida, ou les MST, c'est ce qu'il va te dire. C'est pas bon de fouiller, d'être toujours derrière. On a parlé de ça aussi hier. Des hommes qui demandent, eh, elle est où? Elle est passée par où? Hein? Non. C'est pourquoi on dit, enfant, mais non, tu es 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 non Et tant que cette personne, vous êtes honnête envers, par la crainte de l'Éternel, Dieu là dévoile toujours l'autre qui n'est pas sincère. Il y a des femmes qui vont marcher Saint-Michel là, le mari les attend là à l'entrée. Vous connaissez la porte arrière, zoom, et c'est pas, bon c'est pas les tchadjoumé, vroom. Elles ont des femmes là dans le marché, oh t'es gonda ennemi, oh ma mère comment t'entends-tu, nawadime, njawe, tant qu'on t'en vous, bon c'est pas. Elle est partie. Elle revient rapidement, elle prend tout, elle sort du marché, le monsieur est là. Pi. Il faut être honnête envers soi-même et envers son partenaire. À part ça, qu'est-ce qu'on a parlé aussi des dettes, les dépenses inutiles et égoïstes. Les hommes, elles, président, est là. Quand ça sort, là, je dois acheter. Ah non, des chaussures de 800 000, des chemises de 50 000 francs. Ah oui, des hommes qui ont même des gammes de soins corporels. Vous n'avez jamais vu? Ils ont des gammes de soins corporels. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la maison, tu te demandes même, est-ce que mon mari n'est pas pididi ou quoi? Est-ce que c'est un cireur de derrière ou quoi? Oui. Et l'argent, les finances que Dieu leur a données, oui, pididi, ça veut dire PDD. PD. L'argent que Dieu a donné. C'est-à-dire, la famille, c'est une institution, c'est comme une entreprise. Lorsque vous êtes directeur d'une entreprise, l'entreprise a beau être votre entreprise, mais les fonds de l'entreprise ne sont pas seulement des fonds propres à vous, mais c'est pour l'entreprise. Donc l'entreprise maison, quand Dieu a donné ce qu'il faut pour subvenir aux besoins, parce qu'il a établi l'homme comme le chef de la famille, le sacrificateur de la famille, le prophète de la famille, le guide de la famille, le gardien de la famille. Donc c'est à celui-là, et Dieu a même dit qu'ils doivent s'occuper, prendre soin de leur femme. Donc, le bien que Dieu a donné pour la famille, eux, ils détournent. En réalité, c'est un détournement de fonds. Eux, ils détournent, c'est pour acheter des chaînes, des gommettes. Vous les voyez, ça comme ça. Et quand ils font là, comment vous appelez ça, les djangou là, on met le was ici. On dit design, ouais. Ça sort. Toi-même, tu dois voir que c'est was il a porté. Et il a tous les pains de la collection, hein. Ça, c'est des dépenses inutiles et égoïstes. Juste pour lui. Mais quand vous allez vous endetter dans une banque ou dans une institution parce que vous voulez forcément être comme l'autre, vous voulez ressembler à l'autre, c'est-à-dire ce qu'il a là, moi-même je dois avoir. Ce n'est plus seulement les femmes, il y a les hommes aussi. Moi-même je dois avoir. C'est ça, c'est ci. La Bible dit dans Proverbe 22, 7 que le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est clair. Et c'est là où les gens s'endettent jusqu'aux os. Ils ne peuvent même pas dormir. Le jour où une souris passe, c'est que nous devons apprendre à gérer tout ça. Et pour réussir la communication au sein du couple, nous avons parlé de la communication ouverte et honnête dont on a tout le temps parlé. Il faut commencer, si vous ne communiquez pas au sein de votre couple, commencez par communiquer dès aujourd'hui. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a aussi les émotions que l'on garde, les sentiments que l'on refoule, tôt ou tard, ça finit par exploser. Et ça pourrit le couple. On traîne des frustrations. L'autre a fait telle chose sans se rendre compte. Au lieu de lui dire ouvertement, tu as fait telle chose qui m'a frustré, on garde. Et le diable prend, il utilise. Là, tu as vu, c'est comme ça, il est. Maintenant, il faut divorcer. Tu as vu, non, il ne t'aime plus. Tu as vu, non, elle fait des cachotteries. Tu as vu, non. Et le diable utilise ça pour pourrir la relation. Donc, il faut communiquer. On a parlé aussi d'apprendre à intégrer l'avis de votre partenaire. Lorsque vous intégrez son avis, ça peut tout changer. De respecter et d'honorer l'engagement du mariage. De mettre fin au syndrome du papa absent. Papa a dit d'auto. Papa a dit papa a baman. Il dort toujours en ville. Oui, il y a des papas comme ça, vous n'avez jamais vu. On va opérer leur femme. Ils sont en ville, à Chevalier. C'est ça, non? Ou bien quoi? Et sous le train? Ou bien quoi? La gare? Ou bien quoi? Des papas qui ne tombent jamais à la maison. Des papas qui chagrinent le cœur de leur épouse. A vie, mais j'ai nommé. Et quand j'ai tombé ici, mais moi, j'ai nommé. Peut-être que papa n'a pas joué. Oui! On ne les voit jamais. L'éducation, c'est-à-dire, c'est pourquoi il y a même l'association des femmes, père et mère de famille. Vous connaissez là? Vous connaissez l'association là? Vous n'en avez jamais entendu parler? Et vous êtes au Bénin ici? L'association des femmes pères et mères de foyer. Au Bénin ici, vous ne connaissez pas. Ça existe. Jusqu'à ce que les femmes sont obligées Ils ont leur mari en vie. Mais elles-mêmes savent qu'elles sont en même temps père et mère. Papa, fille, papa, ma fille, yo, papa. Elles se sont mises en association pour défendre leur cause. Comment nous allons faire l'éducation de nos enfants? Au moins, si je sais qu'il y a plusieurs personnes dans mon cas, on va s'entendre pour voir comment on va faire. Le syndrome du papa absent brise le couple. Le syndrome du papa absent amène l'adultère. Ça, c'est clair. Ça commence déjà par lui. Et ça finit par venir dans le foyer. C'est là où un jour, où tu décides de rentrer, papa ne vient jamais à 20h. C'est à 7h du matin. Un autre papa viendra. Comme le dirait l'autre, papa m'étonne, il tombe, caca, maman m'étonne, papa a dévolumé. Non, mais c'est des histoires vraies. Oui, c'est une petite fille de 3 ans. Et il tombe, caca, maman m'étonne, papa a dévolumé. Benoît, ma fille. Donc, la femme va finir par se dire, bon, c'est pas grave. Comme il m'a laissé la maison, c'est pas grave. Un papa viendra dormir là. Donc, vous allez, les papas absents là, vous induisez les femmes dans le péché. C'est ça. Et c'est pourquoi Paul va dire que l'homme ne se prive pas de sa femme, que la femme ne se prive pas de son homme, pour éviter les problèmes. Ils sont tout le temps en ville. Et tout cela, c'est souvent, le syndrome du père absent vient souvent quand il y a des gens externes qui commencent par communiquer dans le foyer. Les hommes, surtout vous. Et les femmes dedans aussi, mais je viens d'abord, c'est vous les hommes. La communication externe. Sachez faire des amis. Parce que la Bible même dit de ne pas se mettre sous un joug étranger en étant avec n'importe qui ne partage pas la même vision que vous, qui n'a pas la crainte de Dieu comme vous. Mais on veut être à la mode. On veut avoir des amis qui sont à la mode. Et ça influence beaucoup le couple. Et c'est là où je vous racontais l'histoire de mes parents qui sont venus de Strasbourg. Mon père assis, et puis ma maman était en train de laver le bébé, il était là, il l'aidait. Un de ses amis est rentré et dit, « Oh, Augustin, nous sommes tous les liens, nous sommes là. » Je dis, « Je vais m'assister, mais non, maman, dans mes filles, assister. » Depuis ce jour, c'est sûr, il n'a même pas assisté à comment on m'a fait la toilette, ça c'est clair. Si je suis là, Benjamin, et qu'on lui avait déjà dit ça au début, c'est sûr. L'influence externe. Quand vous quittez le boulot, tes amis vont vous dire à 20h, 21h, où vous devez être pressé de rentrer chez vous, retrouver votre famille, votre femme, vos enfants, leur éducation, demander comment est-ce qu'ils ont passé la journée. C'est là où des amis vont vous demander, oh non, aïe, pourquoi ils vont mon gagner leur mais non, toi aussi, sur l'esplanade du stade de l'amitié, bien pression. Oui, allons prendre un pot. Et il va, bon, c'est mes amis. Ils regardent les deux. Ah, quand ils sont en situé, ah. Et si vous êtes en train de faire des choses, vous êtes en train de faire des choses. Et jamais. Comment ça? Comment tu peux te laisser aller comme ça pour la femme? Ta femme que je vois là? Je t'ai même pas dit. Yo, je la connaissais. Mensonge qu'elle est. On les appelle des éléments catalyseurs. C'est pour briser le foyer. Et les hommes, un peu comme pour se sentir quand même grand chef. Autorité, ah non, hein? Moi, ma femme, oh, d'ailleurs, je dis ça seulement parce que j'avais une autre affaire à la maison. Non, non, non. On peut rester, continuons. Je disais ça seulement. Un peu comme pour montrer que, bon, lui, sa femme n'a rien à dire, hein? C'est lui le maître. Il fait aujourd'hui, demain, le troisième jour, il devient esclave de ça. Le foyer est brisé. Il y a des hommes, quand ils ont des problèmes chez eux, à la limite, allez voir un conseiller chrétien qui peut les orienter. Allez voir un père spirituel qui peut les orienter. Allez voir quelqu'un de conseiller, de mature dans la parole de Dieu pour les orienter. Ah, il se lève, c'est d'abord dans la famille, rapidement une tante, quelqu'un, tout ça. Ah, et si non, mon fils, parce qu'elle-même n'a jamais vécu dans un foyer. Ça, les femmes mariées savent de quoi je parle. Parce qu'elle-même n'a jamais vécu dans un foyer. Elle ne peut pas accepter le fait, par jalousie, le fait que son frère soit à l'aise dans son foyer, que la femme de son frère, elle au moins soit dans un foyer. Elle ne partage pas. Elle doit partir. Elle veut devenir comme moi. On a célébré un mariage ici et la mariée me disait, je ne veux pas inviter mes tantes. J'ai dit, non. Pourquoi tu ne vas pas les inviter? Tu dois les inviter. Elle dit non. Mais c'est qu'en réalité, elles sont neuves. Mais aucune d'elles Vous savez déjà ce que je veux dire. N'est encore dans un foyer. Elles vont et elles reviennent. Donc, elles n'acceptent pas le fait que leur frère, qui est le seul garçon, puisse au moins avoir une femme sous son toit et même veille faire la restauration du couple. Ça, c'est les influences internes. Donc, les hommes doivent apprendre, les hommes et les femmes doivent apprendre à gérer les tantes, les parents avec sagesse. Parce que même la Bible dit dans Samuel que si vous êtes marié et que vous restez sous le toit familial, vous êtes au même rang que les servantes de la maison. Si vous ne savez pas, il faut savoir. Je ne sais plus trop où c'était écrit, mais c'est dans le livre de Samuel. Oui, vous êtes au même rang que les servantes. Et papa a le droit de regard dans votre famille. Et vous ne pouvez rien dire. Et la réalité, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez tous ceux qui se marient et qui restent dans la famille, dans la maison familiale, trop de problèmes. Trop de problèmes. Et toujours dans le livre de Samuel, on dit, si vous vous mariez, puisque Dieu est clair, il dit, l'homme fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme quittera qui? Moi? Son père et sa mère. C'est Dieu, le créateur de toutes choses, de l'univers, de tout ce qui est là. C'est lui-même là qui a dit, c'est lui qui a fabriqué l'homme. Le manière de l'homme, c'est lui. C'est lui qui donne la posologie, le mot d'emploi. Et il dit, vous devez en tant qu'homme quitter votre père et votre mère, et vous vous dites que Dieu, on reste là. C'est ça. C'est source de beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et la Bible dit que lorsque vous quittez le toit familial et vous allez vous mettre ensemble avec votre femme, quand les parents viennent là, ils sont vos parents, vous devez les honorer. La Bible même dit ça, pour avoir des jours heureux sur terre. Mais ils n'ont pas le droit de venir s'imposer dans votre foyer. Et là, les gens qui vont dire, papa, gentil papa, à moi, nous, mon fils. Et c'est ça. Ce n'est pas que vous allez dire, ah non, 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 ne viens pas parler ici. Gentiment, poliment, mais fermement, ici, là, c'est mon foyer. C'est clair. Je me rappelle à un moment donné, mes enfants étaient allés chez mes parents, mais quand je voulais les prendre, ma mère dit non, mon père dit jamais. Comment tu peux les arracher comme ça? J'ai dit, oh, je vous aime bien, je vous adore, mais c'est moi qui les ai mis au monde. Et si entre-temps vous n'étiez pas ici, et que vous étiez au village, ou bien que, bon, peut-être la mort est venue vous surprendre, comment est-ce que je vais m'en sortir? Répondez, donc ceci étant, je les prends. Il n'y a pas de bonnes vies. C'est ça. Donc, quand eux-mêmes, ils viennent, ils peuvent dire, ah, mon fils, attention, tel, ça ne va pas. Maman, d'accord, je t'ai écouté, mais laisse-moi régler. Papa, je t'ai écouté, laisse-moi régler en tant qu'homme. Oui, c'est pourquoi les femmes, surtout, toujours dans l'influence externe, quand il y a problème là, avant, dans le bon vieux temps, quand la femme veut aller se plaindre, elle prend son pain, comme c'est en plein midi, elle met ça sur la tête pour cacher un peu le feu du soleil. Oh, pam, pom, pam, pom. Oh, maman, nous avons ton cadeau, sinon. Vous êtes deux adultes. Le mariage, ce n'est pas pour les bébés. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des mariages célébrés entre 20 et 30 ans. Et nous, Dion, 3 ans après. Et les Dion, 5 ans. Et nos cadavres. Parce que vous n'êtes pas encore homme de la maison de Lévi. Vous n'êtes pas encore homme, pas mature. Vous ne comprenez pas. Ça vous donne envie, mais vous n'avez pas encore compris là où vous êtes en train d'aller. Les sacrifices qu'il faut. Comment est-ce qu'il faut faire marcher pour atteindre l'objectif? Non. La plupart des mariages entre 20 et 30 ans là, les loquets de très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Mais le monde a tellement menti, va vous dire oui, tu as couvert quoi? La Sainte Catherine, c'est pas normal. Tu es une vieille fille. Maman, vieille, bon, mais non, mon vieux père ici. Quand je dis vieux là, c'est pas mari de quelqu'un. Hein? Dieu ne peut pas me laisser comme ça. Si j'obéis à la parole de Dieu, c'est clair. Nous avons 50 ans, tu me fais blé pour le mariage, 50 ans, et tu vis comme une vieille fille, dernier degré. Au cas d'assou, d'agbe. Mais il nous dit le mawon, on s'est mené les signes d'ailleurs. Et t'as dit, maintenant c'est tout. C'est ça. Mais il y a d'autres femmes, par contre, qui refusent de se marier tôt parce qu'elles n'ont pas bon caractère. Il y a aussi des féministes. Attention, ne viens pas n'importe qui. Il n'y a qu'à bosser dans des trolls. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Mais quand vous allez, il y a un problème. Vous n'êtes pas en mesure de vous asseoir. L'homme peut demander à sa femme, il y a tel problème, assois-toi, réglons, comme quelqu'un. Assois-toi là. Donc si on ne règle pas, on ne dort pas. Si toi-même tu dois dormir, tu règles. Le jour où on m'a fait ce jeu-là, je ne sais plus garder. Parce qu'avant, je gardais. Les sentiments refoulés, les émotions refoulées. Nino Fene, aimable monde, miaillon, on va voir. D'accord, Nino Fene, on va voir. Mais je dis, assois-toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'arrive pas à vivre dans une ambiance pourrie. C'est exactement comme ça. Je ne vis pas dans une ambiance pourrie. Ce qui ne va pas, il faut dire, on passe là, et c'est terminé. Et c'est fini, on s'entend. Mais se mettre à aller, se plaindre chez tout le monde, ça dit tout le monde, de loin, regarde votre foyer. C'est ce qui se passe. Chacun donne des conseils, des mauvais conseillers, de bons, et le foyer est en effervescence. Qui écoutez? Des amis. Ah! Tu sais ce qu'il a fait hier? Il m'a fait ci. Mais ce que vous oubliez, c'est que les autres là, votre foyer déjà, est un exemple pour eux. Ils veulent bien être à votre place. Ils veulent bien connaître votre secret. Pourquoi est-ce que vous vous entendez comme ça? Mais elle vit une situation pire. Mais parce que vous, c'est pourquoi la Bible dit que c'est l'insensé qui ouvre sa bouche à longueur de journée. Pas beau, pas. C'est l'insensé. Enfant, on va te dire, loulou, non. Ou un roi, non. L'intelligent ne parle pas beaucoup. Parce que si c'est mauvais, on va dormir dans la même chambre. Si c'est bon, on a déjà dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Et je vous ai déjà dit, quand quelqu'un vous dit pour le meilleur, refusez-lui ça. Il y a des épreuves. Ça, c'est clair, pour grandir. Pour aller dans une classe supérieure, vous devez passer des épreuves. Mais c'est une mode qui est arrivée maintenant dans les églises. On dit, bon, c'est marié pour le meilleur et pour le meilleur. Il n'y a pas le pire. Mais flouminé. Il faut déjà savoir que les épreuves vont venir et se préparer à les affronter que de se faire l'illusion de penser qu'il n'y aura pas d'épreuves, il n'y aura pas de difficultés. Donc vous n'allez pas grandir non plus, vous serez des têtards dans votre foyer, des fêtes cuits. Oui. Et vous préparez quand ça va arriver plutôt que de rêver et quand ça vient dire il ne peut pas me faire ça. Alors qu'il avait dit avant qu'il m'aime. Et c'est en cela que je vous ai déjà donné l'exemple hier en disant que si deux personnes se marient aujourd'hui, c'est la première année, la femme a une toux, attrape une toux. Oh chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais t'acheter des médicaments, ou bien c'est ce que tu as mangé aujourd'hui, je t'achète quelque chose à manger au restaurant. Oh, comment ça va? Elle te regarde, il te couvre. La même toux arrive 2 ans après le mariage. Oh chérie, oh mais pourquoi tu t'es pas soignée? Je te prends un peu de, c'est pas, noscarpine pour te guérir. Il ne te parlera plus de nourriture. La même toux arrive 3 ans après. Chérie, ben tu te rappelles plus du médicament que je t'ai acheté la dernière fois? Mais il faut prendre ça et puis tu dors un peu là et ça va finir. 4e année, la même toux arrive. Chérie, fais vite hein, finis de faire la cuisine, de nettoyer. La cuisine, de veiller aux devoirs des enfants, et puis tu vas te reposer un peu. D'accord? 5e année. La même toux vient. Oh, ben, dis donc, je suis en train de regarder la télévision, là. Mais c'est quel toux, ça? 7e année. Oh, Franck, amène-moi mon sac, je sors. Et si on continue? La vache! Ben, nom de Dieu! Prendre l'eau chaude, là. C'est ça. Et on va vous dire que c'est vous les meilleurs, toi-même. Je donne raison à celui qui dit votre romantisme imbécile là. Moi, ça ne me plaît pas. Et c'est vrai. On ne vous dit pas la vérité. Et c'est ça que les femmes adorent. Eh oh, prépare-toi. Oui. Donc, quand vous ne savez pas ça, quand ça va arriver, ça va vous faire mal. Très, très mal. Et vous ne serez jamais heureux. C'est comme les hommes. Par exemple, un homme rentre du boulot le soir, il est couché et tu te mets peut-être à lui raconter une histoire. Oh mais je me sens mal, j'ai mal à tel endroit, j'ai su. Oh, passe un peu de Végébaume là. Oui, un peu de Végébaume, puis tu dors.
Tu es là, tu dis, oh, voici le végébom, passe-moi ça. Elle te dit, mais tu peux pas mettre la main derrière, qu'on sait passer un peu de végébom là seulement, hein? Tu dis, mais je sais, mais tu ne peux pas. Le temps de finir la troisième phrase, tu entends. Il dort. Il dort, il t'oublie. Mais si tu n'es pas préparé, ça la seule, ça suffit pour briser le couple. Parce que l'autre se sent frustré. Il faut comprendre que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Le côté droit du cerveau de la femme, là, c'est plus développé, c'est l'émotion. Le côté droit du cerveau de l'homme, là, c'est la logique qui est développée. Pram! Oui! Mais les femmes pensent que les hommes sont comme nous. Les hommes aussi vont penser que les femmes, encore qu'eux, ils ne se soucient même pas. Ils sont comme ça. Il faut intégrer. Parce que l'autre chose, où est-ce que je voulais en venir? Les prières de Seigneur, change-le, change-le, change-le. Ça ne marche pas. Dites, Seigneur, change-moi pour que je puisse m'adapter à lui. Il y a un nouveau. Moi, un roman me dit à mon contraire. Change-le. Il a mauvais caractère. Change-le. Je vais vous raconter une histoire de la prière vécue, hein? De la prière de change-le, change-le là. C'est mauvais. Un jour, mon époux et moi, on ne s'entend pas souvent sur les habits. Bon, je ne dirais pas mode, mais sur la forme des habits, les tendances et autres. Quand je lui fais des habits, j'amène chez le tailleur, il te dit en même temps, oh, ça m'attrape les aisselles. Je ne peux pas être prisonnier de ce que j'ai porté là. Il n'est pas d'accord. Et si tu lui choisis son habit, il peut te dire, oh non, le pantalon là, c'est venu jusqu'ici. Ah, moi, je ne peux pas porter ça. Alors que toi-même là, c'est le meilleur là que tu as pris. Ce que toi-même tu veux là. Ce que tu as pris en fonction de ce que toi tu veux porter là, pour que ce soit assorti là. C'est ça, lui dit que ça ne va pas. Et à un moment donné, j'ai commencé par prier. Je ne lui ai rien dit. J'ai commencé par prier. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas lui transformer juste un tout petit peu comme ça. Quoi? Mais toi, toi, ou d'arros sur moi. Change-le un peu. Et j'étais sérieuse. Dieu lui-même sait, j'étais sérieuse. Très sérieuse. Et ça a toujours été l'un des points sur lesquels on ne s'entend pas souvent. Pour s'habiller, sortir une fois, c'est sûr. On ne partage pas les mêmes avis. Et parfois, je dis, pour te faire plaisir, parfois, si ce n'est pas trop mauvais, je dis, bon, pour te faire plaisir. Mais c'est aujourd'hui, c'est là. Je ne porterai plus jamais. Il y a plein d'habits comme ça, là. Et quand j'ai commencé par prier, je priais, je dis, Saint-Esprit, tu es capable de le transformer. Pour que je puisse, quand même, sur ce plan, être heureuse. Je prie. Pendant que je priais, j'ai pris du poids, sans m'en rendre compte. C'est récent, hein? Depuis plus de 2 mois, j'ai du mal à m'habiller pour sortir. J'ai pris un habit, je porte. J'avais quelque chose de très important à aller faire. Et je suis rentrée dans ma voiture, puis on est sorti avec les 2 véhicules. Il était dans son véhicule, j'étais dans mon véhicule. J'étais derrière. Donc, comme il m'a appelé, on parlait, j'étais mal à l'aise. Mais qu'est-ce qui te stresse? Et dit, l'habit que j'ai porté là, non, mon cœur, je n'arrive pas à respirer. Moi, je veux rentrer. Je ne suis pas à l'aise. Ça attrape mes essais. Effectivement, j'étais mal à l'aise. C'est quasiment que je... Comment je vais expliquer ça? Ça me donne même des troubles. Je ne me sentais pas du tout bien. Et il dit, bon, retourne te changer. Je suis allée à la maison me changer. J'ai cherché. J'ai trouvé quelque chose. J'ai mis. Et ça a été comme ça. Jusqu'au samedi dernier. Le Saint-Esprit est merveilleux. On devait aller quelque part. Et j'ai dit, moi, j'ai envie de mettre tel. Lui dit, non. Moi, je veux que tu reportes tel parce que telle tenue me plaît bien. Il dit, mais non, toi aussi. Non, je ne peux pas m'habiller comme je ne veux pas juste pour te faire plaisir. Moi, je ne peux pas. Ça, là, ce n'est pas adapté. Je ne peux pas mettre ça. Je préfère qu'on porte autre chose pour que je sois à l'aise. Il arrive fatigué. Ça m'a énervé. Il dit, Saint-Esprit, merci. Tu as vu comment je me sens quand tu m'obliges à mettre des habits que je ne veux pas avoir. Mais effectivement, quand j'ai réalisé, je dis, mais c'est vrai. C'est très, 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 très vrai. Il dit, mais c'est ça. Parfois que je dis, je vais porter pour te faire plaisir, c'est comme ça que je me sens. Voilà. Donc, porter des habits cintrés, les djangou, là, je ne sais même pas si les gens respirent. Dorane, est-ce qu'on respire à un moment donné? Hein? C'est une question d'habitude. Oui. Donc, quand vous voulez changer l'autre, elle dit, on ne se met pas toujours à la place de l'autre. Vice versa. Son conjoint, sa femme, on ne se met pas à la place de l'autre. On se dit que bon, c'était capricieux. C'est si, c'est ça. Mais là, j'ai tellement compris. Même ce soir encore, pour sortir de la maison, j'ai essayé plus de 7 tenues. Et j'étais fatiguée. Quand j'ai pu trouver ça là pour mettre, arrivé encore le temps de descendre là pour monter dans les escaliers, mes cheveux se sont mêlés au bouton qui est à l'arrière. Bouton Tchoupia. Mon bouton A. Lui, il était là. Ah oui?
épingle, bouton. Donc quand vous voulez changer votre partenaire, vous voulez changer votre homme, Seigneur, change-le, oh, je veux qu'il soit comme ça. Ne vous cachez pas dans de vaines paroles. Dieu là, ça là c'est des accessoires, ça ne le concerne pas, c'est pas l'essentiel. Mais dites plutôt, Seigneur, change-moi, moi là, change-moi. Parce que la vie à deux là, on doit apprendre à se supporter, on doit apprendre, ces deux personnes incompatibles qui se mettent ensemble pour apprendre à être compatibles. C'est une question d'adulte, c'est pas pour les bébés, c'est une question d'adulte. Il faut avoir une certaine maturité pour comprendre. Mais on est caché dedans. Oh Seigneur, il sort trop. Ça là, c'est la prière des femmes chrétiennes. Et leur bouche là, quand la Bible dit que c'est l'insensé qui ouvre sa bouche à longueur de jour, c'est vrai. On prie pour que nos maris, nos époux, qui ne connaissent pas Dieu, puissent venir. Parce que la tendance actuelle dans l'église, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et parmi les femmes qu'il y a dans l'église, la majorité n'ont pas des époux chrétiens. Est-ce que vous avez déjà constaté? La majorité n'ont pas des époux chrétiens. Et là, c'est difficile pour la femme d'évangéliser l'homme. Et c'est pourquoi Pierre va dire, mais gagnez-les sans parole, mais pas vos comportements. Mais les femmes sont piang, 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 à longueur de journée. Et quand elles vont à des veilles de prière, priez pour mon mari. Parce que lui là, il dort dehors. Femme insensée. Priez pour mon mari. Il a une maîtresse quelque part. Et la maîtresse veut me tuer. La maîtresse est venue chez moi. La maîtresse, c'est à cause d'elle qu'il ne dépense plus d'argent pour les enfants. Femme insensée. Priez pour mon mari. Il rentre tard. Il ne s'occupe pas de moi. Il ne donne pas l'argent de popote. Femme insensée. Et beaucoup d'autres choses. Le jour où cet homme viendra à l'église, il va accepter ton Seigneur, il vient. Votre couple est comment devant les gens? Tu l'as dénudé. Au vu au sud de tout le monde. Tout le monde connaît cet homme. Mais quand il va te laisser pour prendre une autre femme dans l'église, on commence à dire, yégué, place où tu vas gourmer bon. Et d'ailleurs, on est vous. Très bien. Parce que le secret est dehors. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ne savent plus quoi dire pendant les prières, les ci, les ça. Ah, mon mari là, priez pour lui, oh, sa mère est une sorcière. Mon mari là, mon mari là, mon mari, oh, mon mari là. Leur bouche ne porte plus de culotte. Le jour où cet homme vient au Seigneur, il est nu, il est habillé, mais il est nu, tout le monde le connaît. Tu as ôté le chapeau de chef que Dieu a mis sur sa tête. Tu l'as ôté. Quand tu as un problème, il faut apprendre à se parler en toi. Le règlement des conflits. Et dans le règlement des conflits, des problèmes de communication au sein du couple, c'est là où, je reviens encore, il y a plusieurs manières. Il y a des conjoints qui ont la maturité de s'asseoir, de faire table rase, de poser le problème et de trouver un terrain d'entente, de les régler. Il y a d'autres couples, ils ne sont pas aussi matures. Et tous les problèmes se règlent, tous leurs problèmes se règlent au lit. C'est tant mieux. C'est aussi un mode de communication. Si vous pouvez régler ça là-bas, c'est tant mieux. Il y a d'autres, ce n'est pas ça. Mais, parce que quand il y a des problèmes, c'est externe, comme je viens de le dire. Et beaucoup d'autres choses. Mais les femmes doivent savoir que la plupart des problèmes dans le couple se règlent effectivement au lit. Mais attention, les femmes prennent ça comme un trophée. Elles deviennent des manipulatrices. Là, c'est pas affaire de fiancé. Les fiancés, là, je vous parle pour... Parce que vous aurez votre permis d'habiter. Votre permis de faire. Mais le couple, mais... Ça se règle effectivement au lit. Mais les femmes, beaucoup de femmes ont cette manie-là de prendre ça comme sujet de manipulation. D'accord. Il se sent refoulé. Une fois, deux fois, trois fois, de fait. Coucou, mon copain, ma copine, au revoir. Il est loin. Ce n'est pas un sujet de manipulation. Quand Dieu l'a créé, c'est une alliance. C'est une communion. Et c'est souvent l'instant de vérité. Mais quand vous voyez les femmes, les pires femmes, timides, au moins à l'instant T, savent parler en toute sincérité. Donc, la communication au sein du couple exige aussi de savoir à quel moment nous pouvons régler nos conflits. À quel moment je peux parler à mon homme. Il y a des gens qui règlent le problème à 5h du matin, tu le laisses dormir et tu le réveilles tôt le matin. Et tu poses ton problème. À la limite, il va t'écouter. Il y a d'autres, c'est en voulant dormir qu'on lui parle. C'est aussi un mode de communication. Mais Il y en a, à n'importe quel moment, on peut leur parler. C'est au partenaire de savoir quel est le bon moment pour régler nos problèmes. Mais quand on dit, on arrive à un terrain d'entente, le pardon doit être sincère. Le pardon doit être sincère. Parce que dans le couple, personne n'est parfait. Personne. Il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Et où? Mais quand l'autre a réellement reconnaît son tort, a le remords de ce qu'il a fait et te demande pardon, tu dois accepter le pardon. Pardonner et oublier. Dis je pardonne, mais je n'oublie pas, tu n'as pas pardonné. Si simplement Dieu pouvait dire, toutes les fois qu'on se répand devant lui, Dieu va dire oui, je vous pardonne, mais je n'oublie pas. Hein. Amen. Qu'est-ce qu'on allait devenir sur la terre? C'est la même chose. Mettons-nous aussi à la place de Dieu pour apprendre à pardonner.
Merveilleux Père de gloire et de grâce, Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore à tes pieds te dire merci. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous depuis hier. Merci parce que tu es resté puissamment avec nous aujourd'hui. Merci parce que tu nous as encore conduits dans la découverte de la vérité. Merci parce que tu nous as encore édifiés, tu nous as conseillés, tu nous as coachés, tu nous as formés. Merci Seigneur parce que même quand nous ne sommes pas ici, tu continues de nous parler, tu continues de nous instruire, de nous montrer la voie à suivre, de nous dire quand il faut aller à droite, quand il faut aller à gauche. Qu'il te plaise Seigneur d'accepter nos louanges et nos actions de grâce pour tout ce que tu fais d'extraordinaire dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais de nos vies, que tout ce que tu fais de bon, tout ce que tu fais d'agréable, mais aussi tout ce que tu fais de désagréable, car nous acceptons par la foi que tout concourt à notre bien. Qu'il te plaise Seigneur de nous donner dans la grâce, de nous donner la grâce d'avoir le discernement, d'avoir la sagesse pour comprendre tes voies, d'avoir la grâce de t'écouter, la grâce de discerner ta voix. Donne-nous, Père Tout-Puissant, de faire taire tous les vents, toutes les tempêtes qu'il y a dans nos cœurs, les tempêtes de jalousie, de frustration, d'aigreur, de crainte, toutes ces choses qui nous perturbent, toutes ces choses qui font tempête dans notre cœur et qui nous empêchent de t'entendre. Donne-nous de te louer en toutes circonstances, d'être joyeux. Donne-nous en toutes circonstances de te louer, de te remercier parce que tout ce que tu fais est très, très bon. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de t'être intime, d'être en parfaite communion avec toi, de te connaître, de te découvrir davantage, de t'aimer. Donne-nous la grâce de t'obéir. Donne-nous la grâce de remporter tous les jours des victoires contre Satan, cet ennemi qui rôde, mais qui a la défaite déjà en Jésus-Christ. Ô Seigneur, merci parce que tu nous as justifiés. Merci parce que devant le tribunal céleste, tu as obtenu notre acquittement sans qu'il ne soit possible à Satan de faire appel. Oh, merci Seigneur parce que nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que nous sommes rachetés. Nous savons que notre pardon est acquis. Nous savons que notre paradis est certain. Nous savons Seigneur que nous combattons non pas pour la victoire, mais dans la victoire. Nous te remercions pour cela Seigneur. Merci infiniment parce que tu es merveilleux. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir. Une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution est